m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie, courtoisie. Oui.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue dans Restons Courtois, votre émission de débat en partenariat avec Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles, L'Incorrect et Le Monde Moderne, et tout cela sur les ondes de Radio Courtoisie. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un journaliste et écrivain avec qui je partage une camaraderie qui remonte à la plus haute antiquité, puisque j'ai calculé, nous avons commencé à travailler dans des fanzines en papier. Même pas des blogs.
Ça ne nous rajeunit pas.
Et dans des journaux imprimés, comme
c'est
Minute,
fou.
À une époque voilà, où les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire, il n'y avait pas de tweet, il y avait.
Non, on a du mal à imaginer que ça. Je pense qu'on a du mal à imaginer qu'on a pu connaître cette période-là.
Eh ouais. Oui, le Moyen-Âge.
Comment faisions-nous?
Et je vous le demande. C'était la régression. Et, enfin, la régression, c'était le Moyen-Âge. Et puis après, voilà, après diverses aventures plus ou moins farfelues. Que nous avons en commun, eh bien, Xavier Aymant, si vous l'avez reconnu, a pris la direction de Présent en ligne. Il a lancé ensuite la belle aventure de Livre Arbitre, dont on parlera. Et désormais, donc, il est le rédacteur en chef de la revue Élément. Et il est aussi, donc, vous le savez, j'imagine, si vous écoutez Radio Courtoisie, chroniqueur à Ligne Droite chaque semaine et patron du libre journal de la Nouvelle Droite sur Radio Courtoisie. C'est le mardi, je crois.
C'est le mardi, une fois par mois, oui.
Et à côté de cela, donc, Xavier Aymant est aussi écrivain et nous l'accueillons aujourd'hui pour évoquer le troisième tome d'Une fin du monde sans importance, qui est un recueil de nouvelles, de scénettes, de... Comment dire ça
de... Bah, en fait, c'est le recueil des chroniques que je donne tous les deux mois dans
Élément,
dans la revue Élément, accompagnée de quelques textes inédits. Oui, ce sont en fait une série de choses vues, de scènes de la vie de la vie contemporaine sous ses divers aspects et ses divers travers, on va dire.
Eh ben, on va y revenir dans un instant. Et juste après cet entretien avec Xavier Aymant, nous aurons le rendez-vous de la réinformation, le rendez-vous habituel, avec la polémique qui a secoué le petit monde de l'édition cette semaine. Vincent Bolloré a-t-il eu raison de virer le président des éditions Grasset, Olivier Nora? La raison avancée, c'était un désaccord sur la date de parution du livre de Boilem-Sansal. Et en réaction à cette éviction, plus de 200 auteurs de Grasset ont démissionné en signe de solidarité face au fascisme capitaliste. Peut-être aussi pour se faire un nom à bon compte, parce que je dois avouer, peut-être mon inculture totale ou pointer le fait que ces gens n'étaient pas forcément des vedettes, que je ne connaissais pratiquement aucun des noms des pétitionnaires.
C'est difficile de connaître les 200, mais il y a quelques noms connus, mais
c'est 5, 7, 8, 10.
Peut-être plus discret, mais ça ne veut pas dire que ce sont des auteurs non méritants.
Ah non, alors on sent la caste, là. La petite caste. le corporatisme. Et puis on en a 300 qui, eux, n'ont pas manqué d'à propos, puisqu'ils en ont profité c'était avec Emmanuel Carrère notamment, pour lancer une pétition pour réclamer l'instauration d'une clause de conscience comparable à celle des journalistes. Alors on aura l'occasion d'en parler, mais la clause de conscience pour les journalistes, alors bon, on peut en profiter, mais objectivement c'est quand même une infamie totale et un privilège hallucinant.
Sauf quand ce sont les copains qui en profitent.
Exactement. Ou nous-mêmes. Mais sinon, bon, c'est quand même vraiment assez spécial.
Rappelons qu'il s'agit de un mois d'indemnité par année d'ancienneté et qu'on peut changer et qu'on peut réclamer si le nouveau propriétaire du titre auquel on collabore ne convient pas.
Voilà.
Donc c'est quand même.
Alors que la femme de ménage, elle ne peut pas. Et le directeur, le comptable ne peut pas non plus.
Non.
Seulement le journaliste.
Il n'y a que le journaliste qui a une conscience.
C'est ça. Bon, c'est bien, moi, je suis journaliste, donc ça m'arrange, mais c'est quand même spécial. Donc voilà, donc là, il voudrait que ce soit étendu.
Vous êtes au courant que c'est une association et qu'il n'y aura jamais de changement de propriétaire?
Hélas. Alors, ensuite, nous parlerons de LR. Alors, hier, les militants LR étaient appelés à voter pour savoir comment voter pour la désignation de leur candidat à la présidentielle, avant d'éventuellement voter pour lui pour de vrai en 2027. Et l'option Bruno Retailleau, comme seul candidat, a plié le jeu en remportant 74% des suffrages. Donc voilà, bah, résultat au lieu de rire de la droite molle, nous allons devoir faire semblant de prendre le sujet au sérieux et puis nous demander ce que cette candidature de Bruno Retailleau présentera comme avantage et comme inconvénient dans la présidentielle qui se présente. Plus vicieux, mais moins ridicule, enfin non, pas moins ridicule d'ailleurs, pas moins ridicule, votre radio, donc Radio Courtoisie, ainsi qu'un certain nombre d'associations de droite ont fait la une de Libération samedi. Le motif, c'est que le quotidien anticapitaliste qui est financé par le milliardaire Kretinsky nous dénie le droit d'être financé par nos auditeurs. En résumé, il y a deux valets du grand capital qui s'appellent Maxime Placé et Pierre Plotu, qui, j'en suis sûr d'ailleurs, sont deux petits mâles blancs cisgenres de bonne famille. Alors cisgenres, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne le sauraient pas, ça veut dire qui n'est ni homosexuel, ni transsexuel.
Qui est conforme à son genre de naissance, je crois. Enfin,
qui est hétérosexuel.
Hétérosexuel, d'accord.
Oui. Si. Cisgenre, c'est...
Non, ça veut dire qu'il est conforme à ça, que ça...
Il est banal.
Il est banal.
Voilà.
C'est un homme assigné homme.
Voilà, c'est ça.
Mais je ne suis pas certain que ça signifie qu'il n'ait pas le droit d'avoir des préférences sexuelles homosexuelles. Cisgenre,
il faut creuser la question.
Je crois qu'on n'est pas encore assez woke.
Peut-être, on va se renseigner. Mais je pense quand même qu'il y a une question d'hétérosexualité, de grande banalité, quoi. Dans le cisgenre, ça sonne vraiment comme une injure dans leur bouche. Mais bon, voilà. Donc, ces deux braves gens, qui sont incontestablement, en tout cas, délaqués du grand capitalisme, hein, puisqu'ils travaillent avec l'argent de M. Kretinsky, même si c'est pour défendre le gauchisme le plus échevelé. Donc, estime que les associations de droite, en tout cas toutes celles qui ne sont pas d'extrême-gauche, ne devraient pas bénéficier du système de défiscalisation qui est légalement accordé aux associations d'intérêt général et que, en tout cas, voilà, seules les assos de gauche devraient avoir le droit d'en bénéficier et que celles qui promeuvent, je les cite, la haine et le racisme devraient... devrait vivre de quoi ? Je ne sais pas d'ailleurs. Puisque
ne devrait pas vivre, devrait disparaître. C'est évidemment le but de l'opération, c'est bien ça.
Parce que si on ne peut même pas vivre des dons de ses cotisants, effectivement, je ne sais plus de quoi on vit. Voilà, donc la question, néanmoins, est-ce qu'il est malin de jouer avec le feu quand on sait le nombre d'associations de gauche qui vivent des subventions, mais aussi des dons défiscalisés ? Parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Et voilà, je n'en suis pas certain. Mais on pourra se poser la question tout à l'heure. Et je note d'ailleurs avec amusement et un peu de gourmandise que Libération s'appuie elle-même sur un fonds de dotation. Ce qui est quand même du plus haut comique.
Oui, sans parler des subventions publiques, évidemment.
Sans parler des subventions. Oui, eux, c'est ceinture et bretelle.
Ça tombe de tous les côtés. Ouais.
Voilà. Et donc, voilà, nous parlerons aussi après de la loi Yadan, qui est sortie par la porte la semaine dernière et que Aurore Berger veut faire revenir par la fenêtre. Pour toujours plus limiter nos libertés et puis renforcer les interdits, au point, je le dis réellement, hein, de réellement songer à pénaliser les arrière-pensées, ou pour mieux dire, pour reprendre leur terme, l'implicite. Et là, par exemple, si on considère que, sans vraiment le dire, j'ai l'air de penser que cette loi est une immonde pourriture liberticide qui instaure une tyrannie de science-fiction, eh bien, Aurore Berger pourrait me faire condamner, alors qu'en fait j'applaudis de mes deux petites mains menottées. Voilà, donc ça aussi on en parlera parce que réellement, enfin on en plaisante, mais c'est quand même extrêmement sérieux. Et pénaliser l'implicite, ça commence à devenir,
très inquiétant, très très inquiétant.
Voilà, et puis j'espère qu'il nous restera un petit instant pour évoquer un sujet qui est arrivé en dernière minute, qui était la photo publiée hier soir sur les réseaux de Ligne Droite par un journaliste à l'esprit vif et affûté qui montrait un soldat israélien dans le sud Liban qui frappait à coups de masse une statue du Christ. Et alors la scène est tellement irréaliste que les membres de notre équipe ont cru que c'était une fausse image et qu'ils l'ont supprimée en pensant que ce journaliste vif et affûté était en fait un vieux gâteux qui publiait n'importe quoi entre une photo de chat et un portrait d'extraterrestre. Eh ben non. Entre-temps, la photo a fait le tour du monde et le service de communication de l'armée israélienne a reconnu l'authenticité avant d'annoncer une enquête. Voilà, donc j'en profite pour dire que quelques auditeurs ont choisi de se désabonner de nos réseaux en nous accusant d'antisémitisme et de propager des faux grossiers, ben non, voilà, alors ils nous écoutent peut-être plus puisqu'ils sont désabonnés, mais en tout cas, honnêtement, enfin, j'en suis navré, mais si c'est vraiment ce qui les pousse à se désabonner, ben je me félicite de leur départ, parce que voilà, si au nom de l'antisémitisme, enfin de la lutte contre l'antisémitisme que nous partageons tous, il faut en arriver à accepter des choses pareilles, ça me dépasse un petit peu, voilà, et je m'empresse de le dire avant l'adoption de la loi Yadan Berger. Voilà, alors pour évoquer tous ces sujets, et y compris le dernier, voilà, j'ai la joie d'accueillir les Yoda de la réinformation, Yoda qui est une petite assonance avec Yadan, mais je n'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. Voilà, les sages de la réinformation. Donc nous avons bah, évidemment Richard Decaize, fidèle au poste, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Alexis Poulain, qui est là-haut dans notre étrange lucarne et qui nous voit. nous aurons également Arthur de Vatrigan qui est en retard mais qui file vers nous avec sa trottinette. Et Pierre Gentillet qui arrivera en seconde partie. Et puis évidemment donc Xavier Aimant qui nous fait le plaisir d'être à la fois l'invité principal mais également un des Yoda de la réinformation puisqu'il va rester avec nous pour les 2 heures.
Mais avec grand plaisir.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez également nous écrire, vous pouvez envoyer des messages à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, téléphoner pardon, au 0146 51 00 85, 0146 51 00 85. Alors, on attaque tout de suite avec « Une fin du monde sans importance, volume 3 » de Xavier Aimant aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, eh bien, Xavier, ça, c'est finalement, vous venez à Radio Courtoisie depuis longtemps.
Oui, pas, ça commence à ça faire commence. Quelques années. Ouais.
Et finalement, on ne vous connaît pas tant que ça. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par parler de vous? Alors, qui
je
êtes-vous,
si
Xavier
Aimant? C'est quand même. Forcément le plus intéressant, mais...
Vous verrez. D'où venez-vous? Où êtes-vous né? Quand?
Alors, je suis né il y a beaucoup trop d'années, je dirais, puisque j'approche maintenant dangereusement de la cinquantaine.
Oh là là.
Je suis... un Auvergnat de naissance.
Un gamin sur Radio Courtoisie.
Bah, écoutez, j'en suis ravi. Et j'ai pas mal voyagé du fait des différentes affectations paternelles en France. Donc j'ai vécu dans plusieurs villes françaises. Ce qui fait que j'ai pas vraiment d'attache régionale très forte. Mais j'ai par contre un attachement à l'ensemble de la France très, très ancré. Et dès la fin du lycée, j'ai commencé, on va dire, à militer dans la mouvance, ce qu'on peut appeler la mouvance nationale, et parallèlement à chercher à écrire dans la presse de droite, et à développer de mon côté aussi des petites publications personnelles. Voilà.
Ben, c'était la suite des questions. Comment est-ce que ça vous est venu le goût pour l'écrit? Parce que...
Ah bah de façon alors assez peu originale pour le fait parce que mon père était professeur d'université en lettres modernes, donc je suis un peu né au milieu des livres. Il était spécialiste de Monterland, il a fait sa thèse d'état sur Monterland, et je me suis donc intéressé à Monterland puisque j'entendais parler toute la journée. Donc au lieu de faire une saturation qui aurait pu s'expliquer hein, parce que c'était quand même très présent, je me suis quand même intéressé à cet auteur extraordinaire. Et en fait, parallèlement à ça, je me suis intéressé aux journaux qui parlaient de Monterland. Et curieusement, les journaux qui parlaient de Monterland étaient plutôt des journaux, on va dire, de droite. Et donc, ça a fait un peu le lien avec la politique et avec mes engagements politiques. Et voilà comment le goût de la littérature, on va dire, m'est venu par voilà, imprégnation familiale, on va dire.
Ouais. Oui, votre, enfin, si c'est pas indiscret, vos parents avaient déjà ces opinions
Alors, mes parents sont des gens de la droite classique... bonapartiste un petit peu, plus UMP, voilà, on dirait la bonne, la droite républicaine, mais ouvert quand même, ouvert, mais rien de très radical.
Et vous, comment c'est venu alors, que vous êtes un peu, je dirais pas un peu plus à droite, parce que c'est pas tout à fait
pas
ça.
Pas forcément
mais,
à droite,
ouais,
mais...
un peu plus, quoi. Ouais.
Ben en fait, moi je me souviens justement que j'étais, comme souvent les enfants... sur la même ligne que la ligne familiale. Je me souviens avoir pleuré quand Jacques Chirac a perdu les élections, je savais que ça représentait apparemment une catastrophe, donc j'avais été très peiné.
En 95 il a gagné en 95.
Donc j'étais petit, mais j'étais très marqué par ça. Je me souviens que pour moi, quand j'étais enfant, je voyais des gens très bizarres. Je demandais à mon père, est-ce que c'est ça un socialiste? Parce que j'avais vraiment l'impression que les socialistes étaient des gens très, très dangereux, très particuliers, etc. Donc j'étais quand même dans une ambiance un peu droitarde, on pourrait dire. Et avec le temps, je me suis mis à lire. Et je me suis rapidement intéressé finalement à une droite plus sociale, à une droite plus identitaire. Et c'est notamment ma grande rencontre, on va dire... pour utiliser des grands mots, de formation politique, c'est celle avec la Nouvelle Droite et avec notamment la lecture d'Alain de Benoist. J'étais déjà à Paris.
Vous êtes arrivé à Paris quand alors?
J'ai fait 2 ans d'études de droit à Tours. Après, je suis allé 1 an à Nantes et donc j'ai dû arriver en 97-18 à Paris, je pense. D'accord. Du siècle dernier.
Oui, oui. Ouais, donc on a dû fréquenter les mêmes librairies.
Oui, c'est possible.
Nauséabonde. D'accord. Et le militantisme donc est venu avec quoi, des rencontres? Parce que en fait, est-ce que vous êtes d'abord journaliste ou est-ce que vous êtes d'abord militant? Et l'un a nourri l'autre ou...
Je pense que les deux. J'ai toujours considéré mettre les deux en parallèle et je me suis toujours considéré avant tout comme un militant. Clairement, même dans le journalisme, j'essaie d'être un journaliste honnête et d'être un.
Vous n'êtes pas objectif.
Mais je ne suis pas objectif, ça, clairement. Et je suis un journaliste. C'est pour moi, tout ce que je fais est quand même au service de. Encore une fois, utilisation d'un grand mot, au service d'une cause. Et quand j'ai milité.
Contrairement à France Info, Libé, Mediapart, où là, on est au service de la vérité.
Voilà, de la vérité neutre, pure, et qui n'a évidemment aucune inclinaison de quelque côté que ce soit, comme chacun peut le constater. Et donc, non, moi, j'ai toujours assumé ce statut de militant, mais avec en effet un intérêt croissant pour la littérature. Et j'ai essayé justement de trouver une formule qui soit à la fois une formule littéraire et une formule entre la formule littéraire et la formule journalistique, tout en parlant de choses qui me semblent toujours éminemment politiques.
Et vos premiers pas, alors c'est où?
Alors mes tout premiers pas, je pense que c'était dans Rivarol. Voilà, à l'époque.
Ça sera bien Rivarol.
J'avais envoyé
donc,
comme
à
ça.
À l'époque de Camille Gallic alors.
À l'époque de Camille Gallic, j'avais envoyé, je devais avoir 15 ou 16 ans, j'avais envoyé mes premiers articles que je signais à l'époque Thanatos, parce que j'étais un adolescent torturé. Et là, on m'avait gentiment dit oui, l'article est pas mal, mais ce serait bien de trouver un pseudonyme un peu moins ridicule. Et donc, j'avais changé de pseudonyme.
André Giscard d'Estaing.
Et j'ai commencé à écrire un petit peu dans Rivarol. Et après, dans différents fanzines, entre guillemets, de la mouvance plutôt, ce qu'on appelle nationaliste révolutionnaire.
D'accord. Genre
Tribune à l'époque, Tribune musicale, Réfléchir, Réagir. Et j'ai créé le mien qui s'appelait Quartier Libre à l'époque.
Ah oui, c'est vrai, tiens.
Voilà.
Oui, je m'en souviens. Et nous, on s'est connus à Minute, de mémoire.
Oui, c'est possible. Près, ouais. Oui, je pense. Ouais.
Oui, eh ben, ça ne nous rajeunit pas. Et alors, vous avez eu aussi pendant un temps, vous avez une formation militante, donc vous êtes, je me souviens surtout que vous avez fait un long séjour en Italie, à Casa Pound.
Oui, ça a été...
Avait duré quoi? 6 mois, non? Peut-être même encore
J'ai vécu un peu plus d'un an à Rome. En fait, mon premier engagement militant, c'était aux identitaires. J'étais au bloc identitaire et au...
C'est plus tout à fait l'UMP, oui, effectivement.
Voilà, au bloc identitaire et au projet Apache, qui était la branche jeune à l'époque de...
Parisienne, ouais.
Des identitaires. Et... Dans ce cadre-là, j'avais pris des contacts avec des camarades qui étaient en Italie, qui avaient donc participé à la création de ce mouvement qui s'appelle Casa Pound Italia, qui est un mouvement de la droite radicale et sociale en Italie, qui m'avait particulièrement intéressé justement par cet aspect social qui était mis en avant de façon non seulement dialectique mais concrète, puisque une des grandes réussites de Casa Pound Italia, c'est d'avoir fait ce qu'ils appellent les occupations non conformes. Alors, ce sont des squats. Alors, je sais que les squats n'ont pas bonne réputation dans nos milieux, mais là, il s'agissait en fait de réquisitionner des bâtiments publics, pas des bâtiments privés, qui étaient laissés à l'abandon par l'État italien, pour tout un tas de raisons. de s'y installer avec des militants et de progressivement les réhabiliter pour y installer des familles italiennes en difficulté. Et c'était un des aspects du programme de Casabon Italia qui m'avait intéressé. Donc je suis en effet parti voir un peu sur place comment se passait ce militantisme de terrain. Et ça m'a vraiment particulièrement marqué et impressionné. Même si j'avais vu d'excellents militants en France, je découvrais un militantisme presque total, avec des gens qui étaient au service du mouvement 24 heures sur 24, qui intervenaient quand il y avait par exemple un tremblement de terre dans le nord de l'Italie. Il y avait des militants de toute l'Italie qui venaient pour déblayer, parce que l'État italien, ça s'améliorait depuis, était quand même assez défaillant dans un certain nombre de domaines à l'époque. Et donc, il y avait des groupes comme ça de militants qui venaient apporter leur aide aux populations locales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, avec beaucoup de dévouement. Et voilà, c'est vraiment une expérience en effet militante qui m'a profondément marqué.
Et vous viviez avec eux
Oui, non-stop, j'ai vécu...
Dans le squat.
J'ai vécu les premiers jours dans le squat, après je vivais à côté, mais c'est un quartier en fait où il y avait plusieurs activités de ce mouvement, et les militants vivaient quasiment H24 ensemble.
D'accord. Alors après donc, vous revenez en France, et là vous poursuivez vos activités à la fois journalistiques et militantes, donc vous êtes passé vraiment un peu dans... Tout sans vraiment d'a priori, j'ai l'impression, parce qu'on vous a aussi bien vu au nouveau, enfin à présent,
qu'à
Rivarol, qu'à Élément, qu'à Radio Courtoisie, qu'à TV Liberté.
Oui, moi je suis assez œcuménique dans ce domaine. J'ai évidemment des principes et des valeurs personnelles sur lesquelles je ne transige pas, mais dans l'ensemble, je pense que les querelles de chapelle, les césures que cathos païens, etc., ont fait beaucoup de mal à notre milieu et l'ont sans doute empêché de se développer comme il aurait dû, et donc j'ai toujours essayé de passer outre et de travailler avec les gens qui me paraissaient honnêtes, sérieux, c'est-à-dire pas folkloriques, pas excessifs, et alors ça fait un peu cliché, un peu ridicule peut-être, et qui me semblaient être des gens qui s'engageaient par amour et pas par haine ou par aigreur. Voilà, c'était le tri que je faisais pour me choisir les gens avec qui je travaillais, mais après je leur demandais pas leur certificat de baptême ou leur définition exacte de leur positionnement politique. Et en effet, j'ai un peu navigué, mais avec une ligne qui me paraît quand même relativement claire et cohérente.
Cohérente, oui. Je sais si Richard a une question. Ou Alexis Poulain, d'ailleurs, non ? Ou alors je continue. Mais justement, est-ce que vous êtes plutôt, vous, catholique ou nouvelle droite, enfin païen ? Parce que maintenant, de toute façon, il y a plein de catholiques à la nouvelle droite, sans vouloir offenser mes camarades néo-païens.
Comme je le dis, j'essaye d'être catholique, parce que je trouve que c'est parfois très prétentieux de s'affirmer catholique, il faut essayer de l'être, c'est déjà pas mal. Donc moi, clairement, je m'affirme catholique et je m'en cache pas, et notamment pas du tout auprès de mes camarades de la Nouvelle Droite, mais ma formation politique et idéologique, elle est la Nouvelle Droite. Je suis spirituellement catholique, mais je suis sur une ligne je suis très largement sur quasiment à 100% sur la ligne de la Nouvelle Droite, sur les questions économiques, sociales, antilibéralisme, etc.
Et comment ça s'est fait alors, votre rencontre avec la Nouvelle Droite ?
Par la lecture des ouvrages d'Alain Benoît, qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait découvrir plein de choses, parce qu'en effet, justement, moi j'étais très... comme je vous l'ai dit, marqué par une formation plus de droite un peu classique libérale. Donc ça a été la rupture avec l'idée du libéralisme. Ça a été la remise en cause de certains dogmes, la découverte du marxisme comme pas comme solution, mais comme analyse intéressante du phénomène capitaliste, la prise en compte des questions écologiques. Qui était totalement à l'époque méprisé, voire moqué par les milieux de la droite classique. Et donc c'est ces lectures-là qui m'ont conduit à me rapprocher de la Nouvelle Droite. Et là j'ai un peu tapé à la porte en envoyant également des articles à Éléments, où j'ai commencé à écrire. Ça doit faire maintenant, je pense, un peu plus de 12 ou 13 ans.
Vous étiez au choc du mois ou pas ? Je sais même plus.
J'étais au second. Je pense que vous étiez également. J'ai écrit aussi quelques papiers au nouveau choc.
Et donc les premières rencontres concrètes avec les gens de la Nouvelle Droite, c'était qui ? Est-ce que c'est François Bousquet ? Est-ce que c'est Alain Benoît ?
En fait, c'est Michel Marmin, C'est vraiment Michel Marmin qui m'a entre guillemets.
Qui a écrit votre postface.
Voilà, exactement.
La préface,
ça m'a fait
très amusante, et d'ailleurs d'Alain Benoît.
Un grand plaisir que les deux, Alain Benoît et Michel Marmin, veuillent bien participer à ce recueil. C'est Michel Marmin qui, suite à un article que j'avais envoyé, m'a proposé qu'on se rencontre. Et à l'époque, m'avait proposé de faire des recensions de polars, parce que lui s'intéressait beaucoup au polar, donc j'avais commencé par faire ça, puis proposer des articles un peu plus, sur d'autres, sur des thèmes plus variés. Et la deuxième étape, c'était qu'en fait, à l'époque, j'avais également parallèlement à ça un blog. On a parlé des temps anciens où il y
vous
avait
étiez
des,
moderne.
Des blogs, et j'avais donc un blog personnel qui s'appelait À moi que chaud, et qui faisait partie de ce que les gens appelaient la réacosphère à l'époque, où il y avait pas mal de blogs comme ça, conservateurs ou de droite, qui existaient. Et à ma grande surprise, par l'intermédiaire d'une amie commune, j'ai appris que Alain Benoît lisait mon blog et appréciait. Alors c'était un blog où justement je commençais à faire ce genre de chroniques, des petites scénettes, que j'espère humoristiques, sur la vie de tous les jours. Et Alain Benoît un jour m'a dit... Écoute, est-ce que ça t'intéresserait de transformer ça en une chronique régulière dans Éléments ? J'étais évidemment très très flatté, très heureux de cette proposition, un peu inquiet aussi parce que je me disais est-ce que le genre va correspondre à Éléments, qui est quand même une revue très sérieuse, une revue d'idées, une revue intellectuelle. Et je me suis lancé, il y a eu un assez bon écho parmi les lecteurs, et donc ça c'est...
Alors, pour être honnête, je crois que ça fait partie des la première page que je lis quand je reçois Éléments.
Ah ben, ça me fait plaisir, c'est flatteur, et oui, ça a bien fonctionné avec notre lectorat, et donc ça s'est inscrit dans la durée.
D'accord. Alors, vous parliez du polar, vous avez fait une petite incursion aussi dans le roman policier, vous avez écrit
un polar
identitaire.
Aux éditions Odaizarm, dans la série du Lys Noir, qui est donc une collection où en fait c'est un héros récurrent, mais qui chaque nouvel épisode est écrit par un auteur différent. Donc on m'a demandé de faire un de ces épisodes, donc j'ai fait Terminus pour le Hussard, qui est en effet un petit polar politique un peu ironique aussi sur un libraire redresseur de tort qui est confronté à diverses force maléfique, mais qui défend le droit et la veuve et l'orphelin.
Alors, on va arriver bientôt à votre livre, donc Une fin du monde sans importance, volume 3. Mais d'abord, continuons peut-être à parler un peu de vos goûts ou de votre formation, parce que vous avez aussi créé, honnêtement, une vraie réussite de ces dernières années. C'est une revue, j'allais dire une vraie revue littéraire qui s'appelle Livre Arbitre.
Alors c'est pas moi qui l'ai créé.
Vous êtes à l'origine en tout cas.
C'est Patrick Wagner qui est un vieux camarade qui a créé cette revue à l'époque dans le pays messin. D'ailleurs c'est le premier sous-titre de ça s'appelait Livre Arbitre pays du revue du pays messin pardon qui l'a développé donc en Moselle et qui quand il est arrivé à Paris a voulu la relancer sous une nouvelle formule et c'est là où nous sommes rencontrés. Et on a en effet repris le titre pour en faire une revue littéraire peut-être plus conséquente et qui en effet je pense aujourd'hui est une revue de très grande qualité.
Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc ça c'est
avec
une revue
plaisir,
qui fait quoi,
oui, bien sûr.
Une centaine de pages.
Alors maintenant ça fait 150 pages par numéro, donc on sort tous les c'est un trimestriel. Et le principe en est de faire un ou deux grands dossiers.
Ouais.
Donc, par exemple, le dernier numéro, c'est un dossier sur Sacha Guitry, le second sur la littérature fantastique, et à côté de ça, une veille éditoriale sur les sorties qui nous paraissent mériter d'être mises en avant, et aussi pas mal d'entretiens. Et donc, on a des entretiens, parfois aussi des nouvelles que nous confient certains auteurs. Et donc, on a une revue assez dense et assez complète tous les trois mois.
Alors, il y a pas mal de plumes qui passent ou qui ont des émissions à Radio Courtoisie. On a Alain Pocard régulièrement.
Oui, alors Alain Pocard est quelqu'un qu'on doit ne pas manquer de remercier. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé la revue Livre Arbitre en nous ouvrant son carnet d'adresses. hein, parce que nous, on était un peu des, à l'époque, des jeunots qui ne connaissions pas trop le monde littéraire de l'intérieur, et donc il nous a permis d'avoir pas mal de contacts avec des Alfred Ebel, avec plein de d'auteurs qui ont bien voulu, à leur tour, non seulement participer, mais nous fournir aussi des contacts, qui fait en effet qu'aujourd'hui on a de très belles plumes et on arrive à avoir un panel d'auteurs de sensibilités assez différentes d'ailleurs, mais qui se retrouvent et qui acceptent de participer à cette aventure.
Et alors, il y a évidemment une coloration. C'est pas vraiment politique, en fait. J'ai l'impression que les idées, là, pour le coup, contrairement à Éléments ou à d'autres revues, ne sont pas essentiellement ce qui vous préoccupe. C'est plus.
C'est une revue littéraire. C'est clairement une revue dont la priorité, c'est la littérature, c'est l'intérêt que nous portons à certains auteurs, à certains livres. Après, il y a une coloration.
Oui.
Quand on voit les auteurs que nous choisissons,
c'est pas
de Monterland, les Hussards, etc. Il y a évidemment, c'est plus des auteurs qu'on rangerait dans une catégorie qui n'a pas tellement de sens en termes de littérature, mais qu'on dirait de droite, oui. Voilà, au sens extrêmement large. Mais vraiment, on s'autorise à parler de n'importe qui à partir du moment où on considère que le livre vaut la peine d'être lu. On essaie de pas avoir les mêmes œillères que les gens du camp d'en face, quoi.
J'ai jamais vu de descente, de mémoire, ou en tout cas pas de dossier central sur un écrivain à blacklister. Enfin, il y a pas de.
On préfère mettre en avant ce qu'il y a à lire.
Vous aimez,
bon,
oui.
En fait, quand on n'aime pas, on n'en parle pas. Bon, alors,
vous êtes une revue de droite.
Il y a peut-être eu quelques exceptions, mais en effet, c'est pas du tout le but principal de la revue. Il y a tellement de choses belles, bonnes et intéressantes à mettre en avant que c'est pas la peine de perdre de la place pour autant le en plus le silence et le mépris, c'est les choses les plus terribles qui peuvent arriver à des livres ou à des auteurs, donc il vaut mieux ne pas en parler.
BHL ne s'en relève pas.
Alors, je crois qu'il a beaucoup de mal.
Il a jamais eu sa tête en couverture.
Je crois qu'il a beaucoup de mal, il en souffre. On m'a régulièrement dit qu'il en souffrait beaucoup.
Alors justement, quels sont vos goûts à vous? Est-ce que vous avez des goûts de droite?
Je pense, oui. Oui. Je pense que j'ai...
Quels sont vos écrivains préférés?
J'ai gardé l'atavisme familial, je suis un grand admirateur de Monterland. Après, en écrivain contemporain, j'ai une grande admiration et une passion, ce serait beaucoup dire, mais je considère Michel Houellebecq comme vraiment un auteur fondamental, et notamment son livre « Extension du domaine de la lutte » comme un des romans les plus importants de ces 50 dernières années.
Et une influence aussi un peu pour vous.
Et une grande influence, ouais. Et une grande influence pour moi. Après, je suis assez éclectique, en littérature, j'ai plutôt des goûts de droite, mais par contre, j'ai amené à lire pas mal d'essais politiques, et là, il m'arrive très régulièrement de lire des choses d'extrême-gauche, parce que l'extrême-gauche produit, notamment sur les questions qui m'intéressent, qui sont notamment l'écologie, souvent des ouvrages très intéressants, qu'on trouve malheureusement pas encore trop à droite. Donc j'ai pas non plus d'œillère particulière, mais c'est vrai que, bon, oui, je suis plus sensible à une littérature de l'élévation. Alors ça, c'est Houellebecq, ça, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas avec une critique sociale intéressante. Et mais vous voyez, je cherche là des exemples d'auteurs de gauche que j'aime bien, mais j'ai du mal à en trouver. Je suis un peu embarrassé. Non, mais par exemple, si vous voulez,
Virginie Despentes.
Non, ça marche pas.
Vous
Virginie
savez qu'elle
Despentes,
elle peut être appréciée. Moi, personnellement,
je sais qu'il y a des camarades qui l'apprécient.
Non, Richard de Chaise, non.
c'est pas le peu que j'ai lu ne m'a pas convaincu, mais.
Non, mais par exemple, alors c'est pas quelqu'un de gauche, hein, pour le coup, mais j'ai lu.
Manchette.
Gaspard Koenig.
Non, c'est pas quelqu'un de gauche.
Mais. Ça dépend où on met le curseur. C'est quelqu'un qui a un profil. On va dire libéral, etc., qui n'était pas censé être vraiment ma tasse de thé. Et là, je viens de lire son dernier ouvrage qui est « À quoi ?», que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Et j'espère d'ailleurs pouvoir l'interviewer dans Éléments.
Ah, oh, il y a des chances qu'ils disent oui.
Ben, il a déjà donné une entrevue il y a très longtemps, mais je trouve qu'il a une évolution intéressante aussi, justement, même par rapport à son propre libéralisme. Et je pense que c'est un auteur qui mérite d'être...
Ben, c'est peut-être un vrai libéral, au sens où, justement, il ne se met pas de barrière et où il peut venir parler à des gens.
Oui, déjà, mais même sur sa conception. Maintenant, il est quand même très porté sur les questions d'écologie. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de débattre avec lui, enfin, de discuter avec lui, en tout cas.
Alors, et quels sont les auteurs que vous jugez les plus surfaits ? On parlera de Grasset dans quelques minutes.
Il y en a
quelques-uns.
Il y en a quelques-uns. Après, il y en a beaucoup que je n'ai pas lus, mais qui me paraissent.
C'est comme Annie Ernaux, par exemple.
Les Annie Ernaux, je n'ai jamais lu. Mais j'ai jamais eu envie de lire. Mais
pas debout dans une librairie, on vous dit tiens, il faut quand même.
Non, je me suis jamais infligé ça.
Et vous avez reposé le livre
Bah oui,
mais j'ai lu tellement de mauvaises critiques.
Il faut même pas le voler.
Non, mais je me souviens avoir lu des choses qui étaient sans grand intérêt, alors que ça a eu des très grands succès, de Anna Gavalda, des gens comme ça. Je trouvais ça pas mauvais, mais enfin, je comprenais pas le rapport entre l'immense succès et la qualité, quoi. Je trouvais que c'était un peu disproportionné. À l'inverse, il y a des choses qui... Amélie Nothomb, j'aime beaucoup Amélie Nothomb, qui est souvent attaquée, je trouve, à tort, en disant que c'est de la sous-littérature ou de la littérature un peu facile. Je trouve qu'il y a, en tout cas, j'ai pas tout lu, mais je trouve que ça reste souvent très intéressant. Donc, en fait, j'évite de m'infliger des lectures dont je pressens qu'elles vont être, désagréables. Quand je sais, par exemple, Annie Ernaux, quand je le vois se faire descendre par plein de gens dont j'apprécie les goûts, je me dis, bon, je leur fais confiance, c'est pas la peine que j'y aille voir de moi-même.
Et en auteur contemporain que vous appréciez, là on va avoir le prix des Hussards bientôt, je sais même plus quand c'est.
Alors,
où se trouve Olivier
Évidemment, il y a évidemment Richard de Sèze.
Ah, très bien, merci.
Dont je parle, dont nous parlons régulièrement, à la fois dans Éléments.
Juste après un prix Nobel, ça me paraît normal.
dans Livre Arbitre.
Puis c'est prudent parce qu'il va bientôt critiquer votre livre. Donc.
J'en ai déjà dit du bien, tu peux te lâcher, Xavier. C'est trop tard, c'est imprimé.
Évidemment, il y a aussi, vous l'avez cité, Olivier Molin, dont je regrette qu'il ne soit pas plus productif ces derniers temps.
Mais c'est parce qu'il travaille.
Il est très occupé, je sais bien, à valeur actuelle, mais qui est vraiment, pour moi, un auteur assez formidable, parce qu'il arrive à faire rire, et rire même aux éclats. C'est d'ailleurs une des qualités aussi de... Enfin, je ne vais pas vous passer trop la brosse à reluire, mais une qualité de Richard de Sèze, c'est que je trouve que c'est très difficile de faire rire en littérature. Faire sourire, on peut y arriver, mais vraiment faire rire, c'est vraiment un art très délicat. Et quand je vois la façon dont Olivier Molin y arrive, je suis toujours très, très impressionné.
Tiens, c'est intéressant ça. Est-ce que vous avez une filière d'auteurs drôles, non pas comiques, pas forcément du vaudeville, mais des auteurs qui vous font... Un Houellebecq d'ailleurs fait rire un peu dans cet esprit.
Houellebecq peut faire rire souvent un peu jaune, mais il ne fait pas non plus rire aux éclats. C'est
Philibert Hume, est-ce que vous connaissez ça?
Je ne connais pas du tout.
Ah,
non.
Bah alors vous ne serez pas venu pour rien. Franchement,
voilà, je note.
Oui, roman fleuve, roman de gare, ou roman je ne sais plus quoi, il a écrit 3 ou 4 livres qui sont mais hilarants. C'est un genre de Sylvain Tesson Sylvain Tesson
n'est pas hilarant.
Non, mais là justement, en fait, c'est pas de la parodie de Sylvain Tesson, parce qu'ils sont très amis, mais il fait des aventures à sa hauteur, c'est-à-dire que là où Sylvain Tesson va aller gravir l'Everest, lui remonte la Seine dans une barque avec une voile faite d'un rideau de douche, hein, pour de vrai. Hein. Donc, c'est des choses comme ça.
Non, il y a un auteur que j'ai eu la chance d'inviter sur Radio Courtoisie qui s'appelle Alexis Le Gaillet. Qui publie aux éditions La Mouette de Minerve, qui fait des fables contemporaines également très très drôles, donc j'invite d'ailleurs les lecteurs à le découvrir. La Fourcade aussi, qui est un camarade qui écrit également dans la revue Éléments, qui a une plume aussi assez caustique et ironique, pas forcément aussi drôle, mais qui peut aussi être drôle. Patrice Jean, qui est vraiment un auteur que j'apprécie aussi beaucoup.
Alors, on va peut-être venir à votre propre livre maintenant.
Ben avec grand plaisir.
Une fin du monde sans importance, volume 3, à la Nouvelle Librairie. Donc voilà, ce sont des petites histoires qui font toutes l'équivalent d'une grande page d'éléments.
Voilà,
donc
trois feuillets,
c'est
ni
deux,
plus
trois
ni moins.
Pages, voilà.
Trois feuillets, ni plus ni moins.
Et généralement, très drôle, alors il y en a beaucoup qui m'ont fait rire. Alors il y en a une que j'ai, j'aimerais
retrouver.
Ils font
plus de trois feuillets quand même. Si, c'est trois feuillets pile à chaque fois.
Voilà.
Ok. Alors,
après, il y a des textes qui ne sont pas des chroniques, donc qui sont un peu plus longs.
Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà.
Alors il y en a une sur la SNCF qui me fait rire parce que je prends le train sans arrêt.
C'est une cible facile aussi, il faut reconnaître.
Oui, c'est vrai. Bon, là, je la retrouve plus. Mais... Bon, je vais en lire une.
Oui. Non, non, mais très bien. Je m'apprêtais à poser une question pendant que vous cherchiez.
Ah, bah,
mais... ce que j'ai trouvé remarquable dans ce livre, c'est la manière dont vous prenez l'humanité souffrante, comme on aurait dit dans la littérature pieuse, et que vous l'accompagnez dans sa souffrance sans jugement. Mais avec malgré tout énormément d'ironie, donc il y a l'homme seul qui a besoin d'un jouet sexuel et il lui arrive une aventure absolument atroce. Il y a le Trumpiste déçu qui est tourné en ridicule. Et vos cibles appartiennent à tout l'échiquier politique. Il n'y a pas de... Et ce que vous moquez, c'est celui qui adhère trop à un canon, c'est celui qui est trop entier, dédié à une seule idéologie, à une seule vision du monde. Et à chaque fois... évidemment, ce que vous mettez en scène, c'est son apocalypse personnelle.
Oui, je suis très touché par ce commentaire, parce que pour moi, c'est très important de ne pas avoir l'impression de donner des leçons de morale, ou d'être une sorte de deuil surplombant qui juge les cœurs, les âmes et les personnes, et qui se moque de leur médiocrité. Dans les médiocrités que je décris, il y en a bien sûr... certaines qui sont aussi les miennes, et ces gens, ils font partie de mon peuple et de notre humanité, donc évidemment qu'il y a une part aussi d'empathie avec mes personnages, même s'ils sont pas toujours très reluisants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en effet, ce que j'essaie de mettre en avant et de moquer un petit peu, c'est les excès, les travers des militants bornés, des gens qui sont en effet incapables de se remettre en cause, les gens qui pensent être plus intelligents qu'ils ne le sont, les gens qui veulent toujours paraître alors qu'ils n'arrivent plus à être quoi que ce soit parce qu'ils sont de plus en plus vides. C'est aussi évidemment toutes les mauvaises habitudes de l'époque, tous les travers de l'époque, et notamment il y a quelque chose qui revient souvent sous ma plume, c'est parce que ça me paraît être quelque chose d'absolument destructeur et dramatique de notre époque, c'est les réseaux sociaux et les conséquences sur notre existence. Je pense que la prolifération, l'utilisation des réseaux sociaux, pour moi, c'est quasiment une révolution anthropologique. On est passé à une autre humanité. Ça détruit les cerveaux, ça détruit... Les gens sont devenus complètement fous avec ces réseaux sociaux. Et ça, j'essaie aussi de montrer les conséquences, à mon avis, dramatiques de cette prolifération et de cette espèce d'existence, double existence ou fausse existence que font naître les réseaux sociaux.
Ouais. Alors j'ai retrouvé, alors il y a celui sur la gare qui m'a beaucoup fait rire, parce que moi je prends le train souvent, et là j'ai vécu votre trajet. Donc c'est un train pendant le Covid, avec toutes les consignes délirantes auxquelles on a été habitués, mais qui existent encore pour certaines, qui ont toujours été là, qui sont éternelles, avec les évidences. Le bar était évidemment fermé, il faudrait donc se passer de gourmandises salées ou sucrées, imaginé par les plus grands chefs et recommandé par Mario, votre dévoué barista, sachant d'ailleurs que barista est au féminin, même si c'est un gars, on ferait avec. La litanie des interdictions, des consignes combinatoires et des promesses de brimades diverses avait duré plusieurs minutes. Ça, c'est tellement vrai. Elle a vraiment une drôle de gueule, leur libre circulation des personnes et des biens, pense à Michel, qui est votre héros. Donc, avant de tenter de se plonger dans la lecture du dernier numéro de Penser et réagir, quand des vociférations derrière lui le firent sursauter. C'était Édouard. Un semi-cadre à chemise mauve qui avait apparemment décidé de narrer au téléphone l'intégralité de sa passionnante journée de travail à Anso, qui devait être son épouse ou sa compagne. Pour compenser la gêne occasionnée par le masque, il hurlait véritablement dans l'appareil. Le gollaïteur du train avait pourtant bien précisé qu'il convenait de passer ses coups de fil depuis les plateformes. Michel se demanda alors sur quels critères se basaient les gens pour choisir les injonctions auxquelles ils se soumettaient avec docilité et même servilité, et celles sur lesquelles ils s'asseyaient allègrement. Alors ça, c'est un truc... qui m'a beaucoup touché parce que ça m'insupporte, les gens qui gueulent au téléphone.
Oui, je pense que c'est assez... ça touche à beaucoup de personnes, ça. Et c'est très répandu au-delà. J'ai pris le tramway là pour venir, c'est invraisemblable. Les gens ont perdu le sens de la plus banale des courtoisies ou des discrétions. En plus, parfois, ils racontent des choses absolument personnelles, terribles. Enfin, Très particulier.
Comment vous bâtissez vos histoires? Est-ce que vous avez la chute qui vient en premier et vous dites « je vais bâtir une histoire autour de cette chute » ou est-ce que vous avez une histoire et vous vous débrouillez pour que la chute soit bonne?
Non, je parle jamais de la chute. C'est souvent d'ailleurs le plus difficile à trouver. En général, je pars d'une... d'une idée de départ ou d'une phrase. Moi, il y a beaucoup de mes nouvelles, enfin de mes chroniques, qui sont nées à l'écoute des gens dans la rue.
Ah, bon,
et, dans la rue ou dans un bistrot, et je saisis une phrase et après j'imagine une histoire autour de cette phrase, parce qu'il y a parfois des phrases extrêmement surprenante, extrêmement drôle, et donc je pars de ce petit...
Vous écoutez aux terrasses?
J'écoute énormément aux terrasses. Alors c'est un peu embêtant parce qu'avec l'âge je commence un peu à devenir sourd, donc j'entends beaucoup moins, donc c'est parfois moins discret pour écouter le voisinage, mais oui c'est vraiment une matière première extraordinaire. Les conversations des gens au téléphone dans les transports en commun, c'est parfois hallucinant. Moi, j'ai entendu des phrases heureusement que j'ai... j'ai appris qu'elle me trompait le jour où je devais aller faire ma vasectomie. Alors ça, c'est quand même une phrase extraordinaire. À partir de ça, on peut évidemment faire une chronique. Bon, après, faut la nourrir un peu d'autres choses, mais il y a des choses... et je me nourris beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et après, je travaille évidemment sur cette base.
Et comment vous bâtissez vos personnages? J'ai remarqué que vous avez une petite dent contre la Cato à serre-tête et jupe plissée, ou les Enguerrand qui viennent de Versailles et qui...
Alors
on
m'a un peu reproché de trop leur taper dessus d'ailleurs. J'ai essayé dans les dernières de changer un peu de cible. Oui. Alors en fait déjà c'est parce que c'est un milieu que je connais, donc c'est toujours plus facile de parler d'un milieu qu'on connaît que d'un milieu qu'on ne connaît pas et qui a un certain nombre à mon sens de travers, mais comme tous les milieux. Et en fait il y a des choses qui me dérangent un peu plus que justement d'autres milieux, c'est que ce sont des gens qui, à mon sens, ont beaucoup reçu, ont beaucoup hérité, et donc je suis un peu moins indulgent avec eux qu'avec d'autres personnes quand ils se comportent mal, quand ils sombrent dans un certain pharisianisme, dans un certain contentement de l'entre-soi, qui me gêne beaucoup, surtout quand on se prétend catholique. Moi-même étant un converti, j'ai un peu souffert de cette entre-soi qui est un peu difficile à pénétrer quand on n'a pas fréquenté les bons lycées. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, par exemple, etc. Qu'on n'a pas été dans un rallye. Et alors, c'est peut-être une petite une mini revanche sociale, mais encore une fois avec beaucoup d'empathie, parce que je leur reconnais aussi un certain nombre de qualités. Mais en effet, je j'aimerais bien que ces gens-là soient parfois un peu plus engagés, un peu plus notamment en politique. C'est très bien la famille, c'est très bien le travail, c'est très bien de se concentrer sur sa réussite et d'être content de ça, mais il faut aussi redonner à la collectivité, à la communauté, surtout quand on a en effet pas mal reçu.
Et alors, comment vous bâtissez vos personnages? Donc, qui sont-ils? Comment vous choisissez que dans telle nouvelle, ce sera un tel, dans telle nouvelle, ce sera tel autre?
Alors, en fait, c'est lié au sujet. Et mes personnages, en fait, sont composites. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des mixtes de plusieurs personnes que j'ai pu croiser, que j'ai pu rencontrer. Ça ne vise jamais une personne en particulier. C'est assez amusant parce que j'ai parfois des gens qui se sentent visés par tel ou tel personnage, alors que ça a pu arriver peut-être une ou deux fois, mais je fais jamais d'attaque vraiment ad hominem. En général, ce sont des archétypes, en fait. Ce sont des archétypes. Ce n'est pas des individus en particulier qui sont visés. Donc, en effet, je prends un morceau d'un tel, et je constitue cet espèce d'archétype qui me paraît révélateur de soit d'une idée, soit d'une posture sociale, soit d'un tel type de petite lâcheté ou de manquement.
Là, il y en avait une aussi qui m'a beaucoup fait rire. Pas de printemps pour mamie. Donc, c'est un pauvre personnage qui vient de passer très... En fait, il s'en plaint pas du tout, il s'en félicite même de nouvel an, tout seul, bien tranquille. Mais maintenant, c'est fini, le confinement est terminé.
Mais oui,
il va falloir y retourner.
Faut retourner là, ouais.
D'autant que Anne, sa compagne, avait très mal vécu de devoir passer deux réveillons sans son mec. Et vous racontez donc un traumatisme social qui ne l'avait pas empêché, Anne donc, de rentrer les deux fois à 7h du matin totalement ivre-morte, Mais Thierry, ne se sentant pas la force de contrarier sa moitié, c'était d'ailleurs là un trait de caractère qu'elle appréciait particulièrement chez lui, appelant cette faiblesse chronique « être à l'écoute » avec l'équipe. Voilà, ça c'est le genre de petite lâcheté qu'on peut retrouver chez les personnages de Xavier Aymon. Et je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie ont des questions.
Alors oui, une première question. Dans la liste des Muret et Houellebecq, des livres sarcastiques, drôles, politiquement corrects, vous pouvez aussi citer Jérôme de Saint-Simon, auteur moins connu et à découvrir.
C'est
publié à la Nouvelle Librairie, si je ne m'abuse. Non ?
Alors, c'est possible, mais là, j'avoue que j'ai une lacune.
Bon, voilà, donc si jamais...
Louis-Henri de La Rochefoucauld. J'en profite pour faire son éloge, parce que c'est un écrivain que j'ai rencontré, que j'ai découvert récemment, que j'apprécie beaucoup, et Marin de Viry également.
Ah oui, voilà. Marin de Viry
est absolument génial.
Oui, c'était gratuite.
Oui, voilà. Et qui, ça aurait dû me venir à l'esprit.
Il va publier un livre sur le roi qui est quelque chose d'admirable. Oui. Alors, la personne qui est interviewée, je crois qu'il s'agit de vous, Xavier.
Interrogée, même.
A-t-elle lu Au-dessus du volcan de Malcolm Lowry ? Au-dessous du volcan, pardon.
Non, je ne l'ai pas lu.
Bon, parce que, voilà, je crois que dans la série des déchets, le personnage est emblématique. Et enfin, l'imbécilité doit-elle être objet de compassion ? Ça ne s'adresse pas à vous particulièrement. Quel que soit notre niveau de compréhension et notre ouverture d'esprit.
Ah, moi, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle l'imbécilité. Je pense
un électeur de Macron, par exemple.
Il faut avoir une indulgence de façon générale pour les défauts des gens parce qu'on a nous-mêmes les nôtres. Ce qui me gêne, c'est pas l'imbécilité, c'est l'imbécilité prétentieuse. C'est l'imbécilité qui se met à penser, comme disait, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais. Le drame de notre époque est que les imbéciles se sont mis à penser.
C'est Monterland avec un peu de chance.
Ça me revient. Non. Je crois que c'est Cocteau, mais je suis pas sûr. En fait, c'est ça qui est gênant. C'est pas. On a tous des insuffisances dans les domaines, etc. Savoir rester à sa place également, savoir connaître ses limites, ne pas vouloir imposer justement sa bêtise ou ses manies. Ou ses obsessions à autrui, voilà, c'est ça qu'il faut combattre. Après, que les gens soient plus ou moins intelligents, plus ou moins cultivés, on espère tous ne fréquenter que des gens intelligents et cultivés, mais malheureusement, c'est pas le cas.
C'est pas si simple.
Et c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Mais je pense que de façon générale, il faut être indulgent. On est dans une époque où les gens sont de plus en plus méchants. Les gens sont de plus en plus durs entre eux. Et encore une fois, on le voit sur les réseaux sociaux. La violence sur les réseaux sociaux est absolument délirante. Les gens insultent au moindre désaccord, insultent le physique, sont extrêmement agressifs. Et ça, je pense que c'est une tendance lourde de notre époque, cette espèce de déchaînement de méchanceté et de vilainie par les réseaux sociaux. Et donc, pour moi, défendre la civilisation, défendre la culture française, c'est aussi défendre la tenue, le fait de respecter les gens, même avec lesquels on est en désaccord, de pouvoir parfois avoir des oppositions radicales sans tomber dans l'injure. Et quand je lis les commentaires sur les vidéos...
Mieux vaut éviter, sincèrement.
Mais c'est terrible. Enfin, j'ai envie de dire parfois, quand j'en regarde une qui me concerne, mais qu'est-ce que je leur ai fait, quoi. C'est des gens qui ne me connaissent pas, qui m'insultent, qui...
Je préfère, ce sont ceux qui font un contresens total sur le propos
qui
a été tenu.
Ça aussi. Ça au moins, c'est un petit côté drôle, quoi. Mais vraiment, on sent qu'il y a une sorte de crasse qui se répandent sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Et j'appelle les gens à faire vraiment une réflexion là-dessus. Et avant de mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, déjà, ne pas oublier qu'ils sont jamais complètement anonymes. Et que ce serait bien de ne jamais dire des choses qu'on n'est pas capable de dire, qu'on ne serait pas capable de dire en face à quelqu'un, quoi. Déjà, ce serait une bonne base de... Je pense pour détendre tout le monde.
Départ. Alors, je crois que Alexis Poulain avait une réflexion sur ce que vous venez de dire.
Ouais, non, c'est vrai que les réseaux sociaux ont pas mal changé la donne. D'ailleurs, on voit que c'est devenu aussi une peur panique des gouvernants de se dire, bon, finalement, OK, il y a un peu à boire et manger, mais il y a aussi un nouveau monde qui arrive en dehors des médias du système. Et ces réseaux sociaux ont permis à des médias qui étaient indépendants, alternatifs, à avoir beaucoup plus d'audience. Comment vous voyez aujourd'hui la tentation totalitaire des uns et des autres, notamment Emmanuel Macron, mais aussi l'Union européenne et Palantir, qui est la dernière boîte qui veut imposer un ordre nouveau, entre guillemets, mais plutôt dévoyé.
Oui, alors en effet, malgré tout le mal que je viens de dire aux sociaux, je suis pas pour leur censure ou pour leur contrôle. On croule déjà sous les interdictions, sous les encadrements excessifs. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens s'autorégulent, parce que justement, en effet, ces réseaux sociaux auraient pu être et ont été et sont partiellement des outils formidables. Il faudrait les débarrasser quand même de quelques couches de crasse dont je parlais, mais c'est pas pour autant que je défends les projets, en effet, de limitation de la liberté. On peut déjà quasiment plus rien faire et plus rien dire, évidemment qu'il faut combattre toutes ces tentatives de contrôle, mais c'est pour ça qu'il faut appeler les gens à essayer de faire eux-mêmes une certaine, même dans leur entourage ou par une certaine police interne pour essayer de rendre ces réseaux sociaux un peu plus dignes de leur intérêt.
Bon. Eh bien, écoutez, cher Xavier Aymond, sur ces fortes paroles et cette grande et belle morale, on va s'arrêter là.
Donc, merci beaucoup.
Vous restez avec nous donc, pour la deuxième partie de l'émission.
Avec plaisir.
Mais donc, vous étiez venu présenter Une fin du monde sans importance aux éditions de la Nouvelle Librairie, Xavier Aymond, donc, 14,90 €. Ça nous fait 220 pages à la louche. C'est vraiment excellent. Vous allez rire, vous allez apprendre des choses sur vous, vous allez découvrir des gens de votre milieu que vous allez reconnaître, donc pas nommément, mais dans leurs caractéristiques, dans leurs archétypes, et ça vous fera beaucoup sourire. Voilà, donc n'hésitez pas à commander ceci, et nous retrouvons.
Alors, juste un auditeur confirme que le drame de notre époque, c'est que la bêtise s'est mise à penser et bien de Cocteau, donc bravo. Ah,
merci à lui.
Et bravo. Un autre tient à dire qu'il a du plaisir à vous entendre.
Merci et encore nous, plus à lui.
Bon. Si, il a dit vous.
Ah bon. Eh bien écoutez, merci beaucoup, à tout de suite donc pour la suite de Restons Courtois.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.